Chapitre 48. Le regard rivé sur le sol, Richard marchait comme un automate. Dans le brouillard qui avait envahi son esprit, une seule étincelle parvenait à briller assez fort pour rester visible. Callan. Elle lui manquait tellement. Fatigué de se battre, il était en réalité las de tout, et en particulier d'échouer sans cesse. Il voulait retrouver Callan. Mais quand lui rendrait-on sa vie? Sa vie à elle. Bon sang, il aurait tout donné pour la serrer dans ses bras juste un instant. Des années plus tôt, dans la maison des esprits, alors qu'il ignorait encore qu'elle était la mère inquisitrice, Callan avait eu un moment de faiblesse et de désespoir parce qu'elle se sentait écrasée par tous les secrets qu'elle ne devait pas trahir. Ce jour-là, elle lui avait demandé de la serrer dans ses bras. Simplement. Il n'avait jamais oublié la tristesse qui s'entendait dans sa voix et se lisait dans son regard. Bien entendu, il lui avait donné ce qu'elle voulait, d'autant plus facilement qu'il le voulait aussi.
« Arrête !» siffla une voix. « Et attends !»
Richard s'immobilisa. Même s'il savait que c'était une erreur, il avait du mal à se concentrer sur le présent. Il remarqua quand même que Sis, la femme qu'il avait capturée, sondait attentivement les environs. La léthargie dont il était prisonnier l'empêchait de penser normalement. Superficiellement, la femme semblait se livrer à une manifestation de force, histoire d'impressionner d'éventuels agresseurs, mais quand on savait regarder, on voyait de la peur sous son masque de bravoure. Décidant d'oublier ses angoisses pour un temps, Richard tenta de comprendre ce qui se passait. À la lueur de la lune, il put constater que c'était très simple. Sis contemplait un camp militaire qui semblait occuper entièrement une vallée pourtant de bonne taille. En plein milieu de la nuit, un calme relatif régnait parmi les tentes. La seule vision de la voyante flanquait la nausée à Richard. Dès qu'elle approchait de lui, une inquiétude sourde lui tordait les entrailles. Au-delà du camp, sur une butte, se dressait un château que Richard pensait reconnaître.
« Avance !»
marmonna Sis en lui passant devant. Richard obéit et retomba très vite dans l'état d'hébétitude où plus rien ne l'intéressait à part Callan. Sous un ciel d'encre, Richard et Sis marchèrent pendant des heures dans une paisible campagne. Comme un serpent, Sis feignait la nonchalance, mais elle était prête à agir à la première erreur de son prisonnier. Inspirant à plein poumon, Richard fut réconforté par l'odeur des sapins baumiers et des autres conifères. Comme toujours, le doux parfum de la mousse et de la bruyère lui rappela de délicieux souvenirs d'enfance. Hélas, Sis et lui sortirent très vite de la forêt pour s'engager sur des voies pavées, puis passer devant des boutiques fermées et des bâtiments obscurs. Dans les ombres, des hommes armés de piques montaient la garde. Richard aurait juré qu'il voyait l'improbable décor d'un rêve. S'il ne se trompait pas, il lui suffirait de fermer les yeux et de penser à la forêt pour qu'elle réapparaisse. Il tenta le coup avec Callan, mais elle ne se matérialisa pas devant lui comme par enchantement. Deux soldats au plastron impeccablement poli déboulèrent d'une rue latérale et se prosternèrent devant Sis, allant jusqu'à embrasser l'ourlet de sa robe noire. La voyante ralentit à peine le pas et ne prêta aucune attention aux propos que lui tenaient les deux hommes. Richard crut comprendre qu'ils imploraient la clémence de Sis, mais il aurait été incapable de dire à quel sujet. Se relevant, les deux types emboîtèrent le pas à la magicienne, devenant en quelque sorte ses gardes du corps privé. Cette scène était bien trop fantasmagorique. Richard le savait, mais il se sentait trop indifférent à tout pour s'en soucier vraiment. Une seule chose comptait pour lui, obéir à Sis. Il n'y pouvait rien, mais tout en elle le fascinait, du son de sa voix à la lueur qui brillait dans ses yeux, sans parler de sa silhouette énigmatique. Maintenant qu'il était privé de son don, la présence de la voyante comblait le grand trou que la magie avait laissé dans son âme. Sa présence lui redonnait un peu d'envie de vivre et l'aidait à se sentir un peu moins vide. Les deux gardes toquèrent assez doucement à une grande porte de fer enchâssée dans un très haut mur d'enceinte. Un Judas s'ouvrit et des yeux brillèrent dans l'obscurité. Ils s'écarquillèrent dès que leur propriétaire eut reconnu la femme au visage blafard. Puis des bruits de pas retentirent. Sur un ordre de leur chef, des gardes de l'autre côté avaient entrepris de retirer la lourde barre de fer qui bloquait la porte. Quand ils eurent terminé, l'imposant battant s'ouvrit. Sis le franchit, Richard dans son sillage. À la lueur de la lune, il aperçut de très hauts murs de pierre, mais ne leur accorda aucune attention. Rien ne l'intéressait, à part la fine silhouette qui lui montrait le chemin au cœur d'une nuit plus épaisse et plus dense que jamais. Des hommes accoururent, apportant des torches supplémentaires. « Par là !» dit l'un des gardes en désignant une entrée en forme d'arche. Il guida Richard et Six jusqu'à un escalier de pierre. La descente dura très longtemps. Au fil des minutes, voire des heures, Richard commença à avoir le sentiment qu'il glissait lentement le long du tube digestif de quelque improbable bête de pierre, mais être avalé ne le gênait pas tant que Six restait avec lui. Dans les entrailles de la terre, quand ils eurent atteint un corridor froid et humide, les deux hommes ouvrirent la marche jusqu'à une porte bardée de fer. Ici, de la paille était répandue sur le sol et on entendait goutter de l'eau dans le lointain.
« C'est l'endroit que vous avez demandé !»
dit un des gardes. La lourde porte grinça sinistrement quand son compagnon l'ouvrit. Entrant dans une minuscule pièce, l'homme alluma avec sa torche la chandelle posée sur une petite table.
« C'est ta chambre !»
annonça Six.
« Il fera jour bientôt, Richard, et je reviendrai te voir à ce moment-là. »«
Oui, maîtresse. »
Un petit sourire sur son visage d'une blancheur de craie, la voyante se pencha vers son prisonnier.
« Connaissant la reine, je pense qu'elle voudra commencer tout de suite. Elle est très impatiente, tu sais, et terriblement impulsive. Elle aura recours à des colosses armés de fouets, je suppose. » Avant midi, ils t'auront décollé toute la peau du dos et il sera temps de passer à d'autres parties de ton corps.
« Maîtresse, je... » commença Richard. Paniqué, il ne parvint pas à en dire plus.
« La reine a le vice dans le sang et elle est très rancunière. Mais ce n'est pas un souci important. J'ai besoin de toi vivant, donc tu n'as rien à craindre. Tu souffriras peut-être 1000 morts, mais tu ne quitteras pas ce monde, tu peux me croire. La mort ne t'accueillera pas en son jardin. »
Sur ces mots, Six se détourna et sortit, escorté par les deux soldats. La porte claqua, puis Richard entendit le bruit d'un verrou qui se met en place. En une fraction de seconde, il se retrouva seul dans une geôle de pierre depuis longtemps oubliée des hommes. À la faveur du silence, l'angoisse revint à la vitesse d'un cheval au galop. Pourquoi une reine lui aurait-elle voulu du mal? Pour quelle raison Six le gardait-elle en vie?
Richard cligna des yeux.
Soudain, son esprit fonctionnait mieux. On eût dit que son aptitude à réfléchir augmentait proportionnellement à la distance qui le séparait de Six.
Quand il se fut accoutumé à la chiche lueur de sa chandelle, il regarda autour de lui. Dans la petite pièce au sol de pierre, il n'y avait qu'une table et une chaise. Les murs étaient en pierre brute et de grosses poutres traversaient le plafond. La réponse à toutes ces questions le frappa comme la foudre.
Déna. Après l'avoir capturée, c'était là que Déna l'avait enfermée. Il reconnaissait la table et revoyait très bien la mort du Cite assis sur la chaise. Levant les yeux, il vit le crochet de fer. Alors qu'il portait des fers, Déna avait suspendu la chaîne qui les reliait à ce crochet. Pendant que son prisonnier se tenait debout sur la pointe des pieds, elle l'avait longuement torturé avec son agiel. Des images de la nuit où Déna l'avait brisée revinrent à la mémoire de Richard. La nuit où elle avait cru le briser en réalité, car il avait réussi à compartimenter son esprit.
Cela dit, il n'oublierait jamais ce qu'il avait subi cette nuit-là, ni la cause de ce déchaînement de violence. Alors qu'il pendait du plafond comme un vulgaire quartier de viande, la princesse Violette était venue se régaler du spectacle. L'horrible fillette avait fait un caprice exigeant de participer activement à la séance de torture. Déna lui avait confié son agiel et expliqué comment s'en servir. Richard entendait encore la princesse clamer qu'elle ferait violer et tuer Callan avant de la mettre à mort. Il avait réussi à frapper Violette assez fort pour lui casser la mâchoire et la forcer à se couper la langue. Tout ça était arrivé dans cette pièce. Se laissant glisser le long d'un mur, Richard s'assit à même le sol. Il devait réfléchir et comprendre ce qui se passait. Étant appuyé contre son sac à dos, il le retira de ses épaules et le posa sur ses genoux. Une idée le frappant, il l'ouvrit, écarta sa tenue de sorcier de guerre et sa cape dorée, et mit la main sur le livre que Baracus lui avait légué. Il le feuilleta et constata que les pages restaient désespérément blanches. S'il n'avait pas perdu son don, il aurait au moins pu lire le testament de son lointain prédécesseur. Grâce à sa magie, il aurait sûrement pu se sortir de cette sale situation. Des si, toujours des si. Une nouvelle idée s'imposa à lui. Il ne pouvait pas laisser ses adversaires découvrir le livre. Six avait le don, une variante en tout cas. Elle ne devait pas poser les yeux sur un texte que Baracus avait tenu secret pendant 3000 ans. Lui seul était censé le lire. Pas question de trahir la confiance que lui avait témoigné l'antique premier sorcier. Se levant, il fit le tour de la pièce à la recherche d'une cachette. Bien entendu, il n'en trouva pas entre quatre murs si dépouillés. Alors qu'il se tenait au milieu de sa geôle plus que perplexe, il leva les yeux et vit de nouveau le crochet de fer. Ayant une idée, il traversa la salle, inspectant soigneusement les poutres. L'une d'elles, parallèle à un mur, n'était pas entièrement collée à la pierre. Comme sur la plupart des plafonds, de longues craquelures couraient tout au long de la poutre, un souvenir de la phase de dégrossissage puis de séchage du bois. Comme il ne s'agissait pas de faiblesses structurelles, les charpentiers prenaient rarement le temps de les mastiquer puis de les teindre au brou de bois. L'ébauche d'une solution naquit dans l'esprit de Richard. Il tira la chaise et monta dessus, mais il n'était pas assez haut. Jamais à court d'astuce, il plaça la table à l'endroit requis, grimpa dessus et réussit enfin à atteindre le crochet de fer, un objet indispensable s'il voulait cacher efficacement le livre. Mais le déloger du bois ne se révéla pas facile. Se suspendant des deux mains au crochet, il pesa dessus de tout son poids, se balançant de plus en plus vite. Au bout d'un moment, ses efforts portèrent leurs fruits. Même s'il lui fallut s'affairer encore un peu, c'était gagné. Le foutu crochet finit par lui rester entre les mains. Tirant la table au fond de la pièce, dans le coin le plus sombre, Richard remonta dessus et étudia une craquelure dont la largeur semblait parfaite. Suivant son itinéraire du bout d'un index, il constata qu'elle remontait quasiment jusqu'à l'entretoise, au point le plus élevé du plafond. L'endroit idéal pour enfoncer le crochet dans le bois, le plus solidement possible, bien entendu. Récupérant son sac à dos, Richard parvint à l'insérer dans l'étroit espace entre le mur et la poutre. Lorsqu'il l'eut aplati de son mieux, il le poussa vers le haut jusqu'à ce qu'il soit suspendu au crochet de fer. Il tira sur le sac pour s'assurer qu'il ne tomberait pas. Rien à craindre, il resterait en place. Sautant au sol, Richard remit la table et la chaise où elles étaient. La couleur du sac se confondait avec celle du vieux chêne de la poutre. Comme il avait choisi le coin le plus sombre de la pièce, personne ne remarquerait le sac caché à cet endroit, à moins de savoir quoi chercher et où le chercher, bien entendu. De toute façon, il n'y avait pas mieux à faire. Content d'avoir mis le livre et la tenue de sorcier de guerre à l'abri, au moins dans la mesure du possible, Richard alla se rasseoir et tenta de dormir un peu. Hélas, fermer l'œil se révéla impossible. Ce que Six gardait en réserve pour lui dès le lendemain l'angoissait trop. Les entrailles nouées, il ne parvenait absolument pas à se détendre. Pourtant, être loin de la voyante le soulageait un peu. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il avait quitté les flammes nuit pour tomber dans le piège tendu par Six? Il n'en savait rien. En présence de cette femme, il ne pouvait ni agir ni réfléchir. Elle étouffait son esprit. Tout son esprit? Dans cette même pièce, Dena lui avait annoncé qu'il deviendrait son chiot et qu'elle le briserait pour qu'il lui obéisse comme une marionnette. Puisqu'il ne pouvait pas s'y opposer, il avait décidé de la laisser faire, mais de préserver une part de lui-même en la mettant à l'abri dans un coin de son cerveau où nul n'aurait accès. À l'époque, cela avait fonctionné. Eh bien, il devait recommencer. Six ne devait plus le dominer totalement comme c'était le cas depuis la capture. S'il sentait en permanence son influence et l'emprise de sa volonté, l'éloignement physique lui rendait l'aptitude de penser librement et de choisir son destin jusqu'à un certain point au minimum. Son plus grand désir était de se libérer du joug de la voyante. Comme il l'avait fait des années plus tôt, Richard créa dans son esprit un compartiment où il enferma le noyau même de sa volonté, de son âme et de son cœur. Une cachette au fond très semblable à celle qu'il avait trouvée pour son sac. De nouveau capable de penser et avec un plan en tête, Il se sentit beaucoup mieux. Même si la voyante gardait la possibilité de le contrôler, sa domination ne serait plus aussi totale qu'elle le croyait. Du coup, il recouvra l'aptitude de se détendre. Il en profita pour penser à Callan. Des souvenirs joyeux à l'époque où un présent lumineux semblait devoir être suivi par un avenir encore plus étincelant. L'éternelle et précieuse illusion de la vie, tellement poignante quand on était contraint par les faits à ne plus y croire. Dans sa prison, Richard se souvint du bonheur qu'il éprouvait près de sa femme. La joie de la sentir contre lui, le plaisir de l'embrasser, la douce ivresse de l'entendre murmurer combien il comptait pour elle. Comme chaque nuit, s'endormir revint purement et simplement à continuer dans le monde des songes son incessante quête de celle qu'il avait perdue.